Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Donc vous êtes spécialiste dans le droit de la propriété intellectuelle, c'est bien ça?
Tout à fait.
Du coup, ça consiste en quoi cette spécialité dans le métier d'avocat? Vous traitez quel genre de cas habituellement?
Alors ça consiste à protéger tout type de création, les créations on va dire plus classiques comme les livres, les photographies, la musique également, ou également des protections plus contemporaines comme les logiciels ou les applications numériques.
Notre association donc a reçu un courrier de la société PixRight qui nous réclame le versement de dédommagement pour avoir utilisé des images sur notre site internet, images qui ne nous appartenaient pas. Notre association et d'autres sur le territoire, c'est une pratique qui est assez répandue et souvent par manque d'informations sur l'utilisation des images sur internet, les gens publient des images sans savoir vraiment ce qu'on a le droit de faire ou pas. Du coup, peut-être, vous pouvez peut-être nous rappeler un peu comment ça marche, ça?
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de photographies, notamment, qui sont accessibles sur Internet. Et le plus souvent, il suffit de faire un clic droit pour copier une photo qui nous plaît sur son site Internet. Cette pratique, qui est simple, que tout le monde peut faire, elle n'est pourtant pas forcément conforme à la loi, puisque les photographies sont le plus souvent protégeables par le droit d'auteur. Et donc, pour utiliser la photo réalisé par un photographe sur son site internet, il faudrait l'autorisation de l'auteur pour la réutiliser. Alors, il existe certains sites dont on dit que les photos sont libres de droit. En réalité, c'est un peu abusif cette notion de libre de droit, mais ce sont des sites où les photographes considèrent que les tiers peuvent réutiliser leurs photos sur les sites. Il y a des sites comme Pixabay, notamment, où on peut utiliser les photos là sans risque d'action. Quand on prend les photos, par exemple, sur Google Images, là, on a souvent un risque d'action du type de société comme PixRight, qui en réalité vont scanner le web, l'ensemble des sites web. Certains des codes ont été insérés dans les photographies et vont vérifier à l'aide de robots si les photos qui sont utilisées sur tel ou tel site ont fait l'objet d'une licence ou pas. C'est sans doute pour ça que vous avez reçu une mise en demeure.
Exactement. Donc c'est la société PixRight qui est apparemment coutumière du fait qu'on voit beaucoup de courriers à plein de structures. Ça a l'air de quelque chose d'assez répandu. Est-ce que vous avez affaire à eux ou à des cas relatif à eux?
Alors, c'est une société qui est une société de droit suisse, mais qui est très active, notamment en France, puisqu'elle disposerait d'une licence du portefeuille de photos de l'AFP. Beaucoup de sites français utilisent des photos issues de l'AFP, et donc PixRight, qui fait un travail, encore une fois, c'est un travail de robot, ce sont des robots qui vont analyser les sites web, envoient très très régulièrement des mises en demeure. Par mois, à peu près, rien qu'au niveau de mes clients, j'ai au moins 3 ou 4 clients qui reçoivent ce type de mise en demeure par mois. Donc je n'ai aucune idée du volume global que ça peut représenter, mais on peut imaginer qu'il y a plusieurs centaines de lettres qui sont envoyées chaque mois uniquement sur la France.
Alors vous avez parlé de l'AFP, alors nous, en ce qui nous concerne, c'est des photos qui appartiennent à Reuters.
Oui, voilà, évidemment, il y a deux partenariats, ouais. Mais souvent l'AFP, mais ça peut être Reuters également.
Donc c'est vraiment une société qui est spécialisée dans le recouvrement...
C'est l'idée du... comme la recouvrement, les recouvrements de créances, des sociétés qui sont spécialisées en recouvrement de créances en matière de contrefaçon de photos.
Alors, dans une association, généralement, quand on reçoit un courrier de PixRight qui demande une régularisation pour l'utilisation d'images sans avoir réglé les droits, sans les avoir achetés, quoi, et donc réclame le versement d'un dédommagement, dans l'association, c'est souvent la panique, d'en plus qu'on sait qu'on a commis une erreur, donc on est tenté de payer tout de suite. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire?
Alors, c'est sûr que généralement, il y a un montant qui est demandé,
ouais,
qui est relativement faible pour des sociétés importantes, mais qui pour des particuliers ou des associations, ça soit souvent ce genre de courrier, ça va être des montants assez importants, on est souvent entre 500 et 1500 euros, ça peut être un peu plus, mais on est souvent dans cet ordre de grandeur-là. Et comme effectivement on se rend compte qu'on a pris une photo, alors qu'on n'avait pas vraiment le droit de le faire, on peut avoir tendance en tout cas à payer par surprise. Voilà, on craint une action judiciaire qui pourrait aller plus loin. Réagir comme ça sur le moment n'est pas forcément la bonne action parce que on va payer finalement quelque chose qui est assez cher. Je ne sais pas quel est le montant qui vous est demandé ici. Mais en tout cas, on est sur des montants qui sont quand même non négligeables pour une association ou pour des particuliers. Et on peut essayer soit de négocier ce montant, soit de contester le bien fondé de cette demande, notamment parce que la photo qui a été reproduite ne serait pas originale. C'est souvent le cas des photos sur lesquelles PixRight agit.
Oui, ils nous envoient donc des courriers avec des captures d'écran et qui nous mettent un peu la pression. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut quand même entamer une phase de négociation ou contester, donc la... carrément contester.
Oui, oui, tout à fait. Alors contester, j'ai l'exemple d'un cas il y a quelques mois où un de mes clients avait repris une photo de la salle du tribunal de Bordeaux, je crois. Cette photo n'avait absolument rien d'original au sens du droit d'auteur, et cette photo, elle n'était pas protégeable, donc la demande qui crée son assurance ne paraissait pas fondée. Donc on peut tout à fait contester le bien fondé des demandes, ou négocier en expliquant, par exemple, j'ai eu le cas aussi, on a pu prouver qu'il y avait trois personnes qui avaient consulté la page où il y avait la photo en cause, donc demander 1 500 € pour une consultation de trois fois, dont sur un contact, ça paraissait un peu démesuré. Donc oui, on peut tout à fait entrer en négociation.
Qu'est-ce qui fait qu'une photo a un caractère original? Comment on définit ça?
Alors, classiquement, les photos étaient protégeables par le droit d'auteur, mais depuis une dizaine d'années, on constate une tendance assez restrictive de la protection des photos par le droit d'auteur. Et pour dire les choses rapidement, on considère qu'une photo est protégeable à partir du moment où elle va au-delà du savoir-faire de tout photographe. Donc ça peut être une très belle photo d'un point de vue technique, mais il faut qu'il y ait autre chose que la simple technique du photographe pour que la photo soit protégeable par le droit d'auteur. Donc il faut des choix, ça s'appelle des choix libres et créatifs, qui témoignent l'empreinte de la personnalité du photographe. Donc ces choix peuvent être opérés soit avant la réalisation de la photo, par exemple la mise en scène, la pose ou l'éclairage, au moment de la prise de vue, par le cadrage, l'angle ou l'atmosphère qui peut être créée, ou même après la photo, par le biais de retouches ou de filtres qui pourraient être apposés sur la photographie. Mais en tout cas, il faut que ça aille au-delà d'un simple savoir-faire technique.
Bah, par exemple, si je prends le cas de notre cas à nous, hein, de photos postées par des gens qui ont fait ça, c'est notre cas que je connais. Donc, on est deux photos sont concernées. On a Michel Alliomari en train de parler à l'Assemblée nationale ou le Sénat, je crois que l'Assemblée nationale, et on a Bachar Al-Assad qui apparemment est en conférence de presse avec des micros devant lui. Donc là, on pourrait se dire que ces photos sont pas originales parce que elles représentent des gens dans leur fonction et il n'y a pas un travail particulier de recherche créative sur la photo.
C'est tout à fait ça. Sur ce genre de portrait réalisé lors de conférences de presse, on peut imaginer qu'il y avait 30 photographes qui prenaient la même photo, les 30 prendraient la même photo. Il n'y a pas de créativité de choix du photographe dans ces cas, donc on peut probablement considérer que ces photos-là ne sont pas protégeables par le droit d'auteur et donc que les demandes de copyright ne sont pas fondées.
Alors moi, ça m'amène à me poser une question quand même. Donc on est sur des robots qui analysent aussi les sites et qui vont ensuite générer des mails un peu automatiques pour réclamer des dédommagements. J'imagine que la société PixRight, elle est au courant que les photos sont pas forcément originales et que du coup, on se demande un peu quel jeu ils jouent. Est-ce que c'est bien normal de demander de réclamer le versement de sommes comme ils le font alors que c'est contestable et ils le savent?
Alors la difficulté, c'est tant qu'on n'est pas allé devant le tribunal, on ne peut jamais savoir si une photographie est protégeable par le droit d'auteur ou non. Donc ils jouent un peu sur ce flou, hein, c'est vrai. Et leur business, en tout cas, c'est d'agir et sur le lot. Encore une fois, on peut imaginer qu'ils envoient plusieurs centaines de lettres par an. Il y en a ne serait-ce que 10% qui payent. Pour eux, c'est très intéressant. Et je ne pense pas qu'ils se posent des questions éthiques ou juridiques sur la réelle protection des photographies sur lesquelles ils agissent.
Est-ce qu'on peut, du coup, se poser la question si leur démarche ne relève pas un peu de la fraude, au final, hein?
Alors, on est dans des cas un peu limites. Fraude, probablement pas, puisqu'ils agissent quand même souvent sur des photos sur lesquelles ils ont les droits. Ils ont souvent des accords avec l'AFP ou Reuters.
Ouais.
Ça, c'est probablement le cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils envoient des lettres qui sont souvent un peu comminatoires, un peu agressives et souvent dans un processus de harcèlement. C'est-à-dire que là, vous avez reçu la première lettre, vous allez en recevoir plusieurs et après, si vous ne répondez pas, vous allez recevoir des lettres de leur cabinet d'avocat. Donc c'est vrai que c'est un processus qui est assez agressif, surtout quand on parle à des associations ou à des particuliers qui n'ont pas l'habitude de réagir à ce genre de demandes.
Est-ce qui nous amène un peu aux questions de la suite qui peut arriver si on ne répond pas à ces courriers? Qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas à ces courriers? Est-ce que PixRight va amener toutes les associations qui ne répondent pas devant la justice pour demander le versement de ces dédommagements?
Alors, très généralement, ils ne font pas grand-chose si vous ne répondez pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le volume... le volume de lettres qu'ils peuvent envoyer par mois, ils ne peuvent pas aller devant le tribunal à chaque fois, surtout pour des montants qui sont relativement peu importants. Hein. Quand on parle de montants entre 500 et 1 500 €, faire une action en justice qui va durer 2 ans avec les frais d'avocat qui sont relatifs et avec le risque de perdre, hein, comme je le dis, il y aura un débat sur la titularité et l'originalité de la photo devant le tribunal, dans 99% des cas, ils ne vont pas agir. Pixrite ne va agir que quand il y a une utilisation commerciale. Par exemple, si une agence publicitaire reprend une photo et en fait une publicité qui va passer à la télé ou dans le métro à Paris, oui, la Pixrite agira très certainement. Contre une association qui n'a pas, généralement pas un but lucratif et qui n'a pas utilisé commercialement la photo, les risques d'action sont extrêmement faibles.
Donc finalement, que risque-t-on réellement là, quand on reçoit un courrier de Pixrite et qu'on décide de rien faire?
Si vous ne faites rien et que vous n'avez pas une exploitation commerciale de la photo, concrètement vous ne risquez pas grand-chose à part recevoir plusieurs lettres et après des lettres d'avocat, mais vous ne risquez, dans 99% des cas, vous n'avez aucun risque judiciaire derrière.
Faut-il prendre un avocat pour se défendre ou pas? C'était ma dernière question.
C'est une belle question. Je suis avocat, je ne vais pas dire que qu'il ne faut pas prendre un avocat.
Oui.
Ce qui est vrai, c'est que vu les montants qui sont demandés, ça va souvent coûter plus cher ou aussi cher en tout cas de prendre un avocat pour se défendre et pour essayer de contester les droits de Pixrite que de payer directement à Pixrite. D'ailleurs, c'est sûrement le calcul qui est fait par Pixrite, hein, de se dire, voilà, vu les montants demandés, ils ne vont pas prendre un avocat pour se payer. Ça peut être une bonne chose de contacter un avocat, ça peut coûter quasiment aussi cher que ce qu'on vous demande.
Bah, c'est un peu la question que nous, on se posait, pour être honnête. Hein. Vaut-il pas mieux donner cette somme-là à un avocat plutôt qu'à Pixrite qui, du coup, pour le coup, mène des actions qui sont discutables pour...
En tout cas, moi, mon opinion, pour dire la chose très concrètement, c'est que si on vous demande plus de 1 500 €, ça vaut le coup de passer par un avocat pour se défendre. Si on vous demande moins de 1 500 €, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de se défendre. Et comme Pixrite ne fera probablement rien, mieux vaut recevoir les mails et ne pas agir.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie.
Ça nous éclaire. J'espère que ça éclairera nos auditeurs et tous ceux qui sont dans le même cas que nous, qui reçoivent ces courriers. Et en tout cas, on rappelle vos coordonnées hein, juste à... après l'interview, si quelqu'un avait besoin d'un avocat spécialiste en propriété intellectuelle.
Merci beaucoup.
Merci Jérôme.